Bonjour à tous, nous battons le plein mois d'août et c'est l'été. L'été, c'est une saison de migration touristique et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans notre Écho en folie avec Bernard. Bonjour.
Bonjour.
Donc, on va parler des touristes aujourd'hui, du tourisme et de tout ce que ça comporte. Pour la petite histoire, d'abord, je voudrais savoir, moi, si l'homme a toujours voyagé depuis qu'il est homme. Dans la préhistoire, il effectuait aussi des voyages pour chasser, d'abord. Et donc, est-ce que c'est ça qui lui a donné le goût de voir ailleurs? Et est-ce qu'il faisait des échanges?
Alors, depuis l'origine des temps, l'homme a échangé. L'homme s'est déplacé pour aller sur de meilleurs territoires où il se sentait soit en meilleure sécurité, soit peut-être pour se nourrir. Tout ce qu'il y a comme reste de la préhistoire nous l'indique. L'homme, les différentes variétés d'hommes primitifs ont tous voyagé. Mmh. D'ailleurs, nous, peuples européens, par exemple, les spécialistes scientifiques nous disent que nous serions originaires d'hommes qui sont nés en Afrique du Sud. Voilà. Donc ça fait un peu rêver, toute cette migration. Oui. Le tourisme, c'est aussi la migration. C'est une migration particulière quand même. Oui. Ça a toujours existé. C'est-à-dire, ce qui a existé, c'est toujours des hommes curieux qui, on leur avait dit ceci, on leur avait dit cela, il y avait les relations commerciales, sont allés voir sur place quelque chose. Et ça a toujours existé. Les Grecs, les Romains, on voit des écrivains, par exemple, qui sont allés de l'autre côté de la Méditerranée, pour les Grecs, pour voir concrètement ce qu'on leur racontait. Donc c'est une forme de touriste. Mmh. Comme aujourd'hui, on va loin pour voir des restes, des monuments. On nous a dit que c'était très beau, que ça parle de l'homme, de notre histoire. C'est un tourisme un peu culturel, un tourisme de vieille pierre. Ce tourisme s'est mis en place dès le XVIIe siècle, d'une manière un peu importante en Europe. Les gens qui étaient dans des situations financières très bonnes, souvent des peuples de marchands ou de haute culture, sont allés voir un peu partout dans le monde comment c'était ailleurs. Mmh. C'est alors, la base du tourisme.
J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à ces préhistoriens. Est-ce que déjà c'était un point économique, ce fait d'échanges qui, au fil du temps, se sont mués pour être ce que nous connaissons aujourd'hui? Est-ce que déjà le fait d'aller, par exemple, chasser ou d'aller faire ces voyages d'initiation qu'ils faisaient dans d'autres peuples, est-ce que c'était déjà un point économique peut-être pour eux aussi, puisqu'ils échangeaient des outils, ils échangeaient des choses?
Échanger de la connaissance, c'est une base, ça donnera il y aura des conséquences économiques. Oui. Quand vous allez voir un autre peuple et vous voyez comment ils font, vous revenez chez vous, vous dites « Ah, ça me plairait, je voudrais bien faire ceci et cela. » Ou utiliser tel produit, ça a toujours existé. Mais ce poids économique était relativement faible. C'est pas lui qui générait une très forte activité. Oui. L'activité dite touristique, du point de vue économique, a commencé à prendre d'importance au XIXe siècle. Mmh. Lorsque aller ailleurs, pour les gens très riches, a commencé à se développer. La grande bourgeoisie, par exemple, a développé dès le XIXe siècle l'idée, par exemple, d'aller au soleil. On a des lobes anglais, des familles qui partaient, l'hiver, ils partaient sur la Côte d'Azur ou en Italie. On était loin de la visite de sites historiques. Mais aussi, on allait ailleurs pour faire des découvertes ou des relations marchandes. Donc, on profitait des deux. Le touriste, aujourd'hui, c'est assez simple, finalement. Mais ça mérite une définition. C'est un déplacement, une migration, qui n'est pas liée directement à une action économique. On le fait pour du plaisir, etc. Donc, c'est la personne qui se déplace hors de son cadre habituel.
Oui.
Donc, quelqu'un qui bénéficie de ses congés payés pour aller, par exemple, prendre le soleil sur la côte méditerranéenne dans notre belle région Occitanie, pourquoi pas, c'est un touriste. Même si on ne le voit que sur l'autoroute, il s'installe sur la plage, au camping, il ne bougera plus de l'été. C'est un véritable touriste. Il est hors de son circuit habituel de vie.
D'accord. Justement, les congés payés, est-ce que ça a engendré l'importance économique et l'attractivité Et finalement, pour aboutir au tourisme, où c'est un rond, enfin, voilà, on revient au point de départ, on tourne là.
Bien sûr, mais l'activité touristique qui s'est développée au XIXe siècle, la recherche du soleil, oui. Les cités, aussi les cures. Oui. La balnéothérapie, etc. Il était de bon temps pour la grande bourgeoisie parisienne, par exemple, d'aller faire des cures adaptées à Luchon.
Oui.
Ce qui avait généré d'ailleurs un train de nuit de Paris à Luchon qui malheureusement aujourd'hui a bien disparu. Mm-hmm. Peut-être faudrait-il envisager de le remettre en place d'ailleurs. C'était une activité touristique et une autre activité touristique.
Oui.
Donc c'est ancien. Alors avec l'enrichissement des gens dans notre société occidentale, avec l'apparition et le développement de la classe moyenne, avec les conquêtes faites sur le marché du travail, les congés payés,
oui.
Les week-ends, etc., l'activité touristique a pris de l'ampleur. Les gens ont commencé à se déplacer pour le plaisir et non pas pour le travail ou le business.
Mmh.
Et là, on est dans l'activité touristique. Donc, ça se développe progressivement dans le 19e. Au début du 20e, c'est accéléré très clairement, par exemple, avec les congés payés. Avec le Front populaire qui institue évidemment les congés payés d'été, une partie de la population en profite pour prendre son vélo, le train, que sais-je, et de partir n'importe où en France, ailleurs, voire commencer, profiter du soleil, de la neige en montagne, de la bonne chair.
Mmh.
On fait du tourisme pour manger aussi, ne pas l'oublier. Il y a un tourisme culinaire, ça peut être un motif. Ceci va connaître une accélération aussi après la Deuxième Guerre mondiale. Toujours pareil, par le développement de la classe moyenne, mais là va s'ajouter l'évolution du transport. Le transport se généralise, devient meilleur marché, et puis l'avion va apparaître. Donc l'explosion du tourisme, c'est lié au développement de l'automobile, au développement de l'avion et des transports aériens, 1960. Les
D'accord.
années 60 sont vraiment l'explosion touristique dans les pays industrialisés.
Mmh. Localement, l'impact du tourisme, c'est fort. Et est-ce qu'il y a des régions qui ne sont pas touristiques ou est-ce que chacun, chez lui, dans sa région, peut développer le tourisme?
Alors, il y a plusieurs questions dans ton interpellation. Mais on peut dire d'une manière très simple que d'abord, le tourisme est devenu une activité très importante économiquement. Son poids devient très fort dans notre richesse nationale. On parle souvent de 8% du PIB, 10% du PIB. Bon, pour certains pays, c'est d'ailleurs devenu l'activité prédominante, avec les effets induits dont il pourra peut-être parler. Ensuite, lorsqu'on regarde chaque région, que ce soit en Europe, en France, chaque pays dans le monde, certains ont des atouts, des avantages, d'autres ne les ont pas. Exemple simple, puisqu'on revient sur notre région Occitanie, il y a un avantage très net, très marqué que nous avons dans notre région, c'est la côte languedocienne, le soleil, la plage, la chaleur. La deuxième atout que nous connaissons bien, c'est les Pyrénées, avec un certain nombre de stations de ski, de stations de bain, etc. C'est un atout. Ensuite, on a un troisième atout touristique qu'on ne peut pas négliger, c'est un certain art de vivre dans des zones peu peuplées. Il y a des avantages très nets, par exemple, c'est pour parler du Lot ou du Gers, ou pourquoi pas de l'Ariège, qui sont attractifs parce qu'ils sont assez peu peuplés, assez vides, assez préservés, avec une tranquillité des fêtes de village l'été. Et c'est des zones très agréables à vivre et qui attirent. Donc, et puis, il y a des zones qui sont moins touristiques. Mais est-ce qu'il y en a des zones où il n'y a aucun tourisme? Je crois qu'on peut dire non, puisque même Tchernobyl, l'explosion de la centrale, aujourd'hui, est-ce que vous le savez, c'est une zone touristique. On paye pour aller visiter les restes de la centrale, dans des combinaisons anti-rayons. C'est une activité économique dans cette zone.
Oui.
Donc vous voyez, ce qui apparaît comme un inconvénient majeur, le danger, peut devenir quelque chose de très, très apprécié. Et on l'a, ce constat, dans plein de régions du monde. Il y a des endroits où les gens vont se promener, sortir, font du tourisme, des randonnées, dans des zones où c'est extrêmement dur, très compliqué, voire dangereux.
Mmh.
Donc, il y a des différences de province à province, de pays à pays, mais rien n'est joué d'avance.
Est-ce que le tourisme et l'attractivité qu'il y a autour est une source d'argent ?
Ben oui, c'est une activité économique. Le touriste arrive d'ailleurs, il va consommer, ouais. se loger, sortir, se promener, etc. Donc il va dépenser sur place, mm-hmm. à condition qu'il soit sur place. Et là, arrivent, vous savez, des nuances,
et oui. hein,
des petites nuances. Est-ce qu'on est dans un secteur touristique et où le touriste va rester quelques jours, par exemple, ou est-ce que c'est un tourisme, disons, de passage ? Je pense qu'on pourra l'aborder un peu plus tard en parlant du Volvestre.
Est-ce qu'il y a des abus avec la filière tourisme ?
Il y a des abus dans le tourisme lui-même. Parce qu'il y a des activités touristiques, par exemple, qui sont un peu discutables. Exemple, aller voir la misère du monde. Vous avez des personnes donc, qui éprouvent une certaine joie et un certain plaisir à aller dans des zones catastrophiques dans le monde pour contempler une misère qui les rassure en fait sur leur sort. Et ce sont les psychologues qui peuvent finalement en parler le mieux qu'un économiste. Il y a ensuite le tourisme qu'on qualifie de sexuel, par exemple, qui a été un moment une place forte de certains pays d'Asie du Sud-Est. C'est une réalité, même si la morale le condamne complètement. Vous avez ensuite un tourisme, disons, intéressé. Il n'est peut-être pas très important, mais il faut savoir qu'il existe. Par exemple, des gens qui vont dans des pays visiter, s'implanter, lier des contacts parce qu'ils vont chercher des enfants. Ça existe dans nos sociétés. C'est un peu malheureux.
Oui.
Vous avez derrière un tourisme qui peut être aussi à caractère religieux. On va là-bas non pas pour voir le pays, mais pour essayer de convaincre la population locale d'adhérer à la religion qu'on en a soi-même. Vous voyez, il y a différentes facettes. Des facettes qui ne sont peut-être pas très importantes économiquement, mais qui existent.
Oui.
Non. Le tourisme le plus classique, ce qui rapporte le mieux, c'est la personne qui vient sur place pour changer sa vie, se faire plaisir, faire la fête, prendre le soleil, aller dans les bons restos, etc. Et oui. celui-là, il est venu pour claquer de l'argent, pour mmh. se faire plaisir. Quel que ce soit les classes, que ce soit la montagne, la neige, voilà une activité touristique qui a émergé après la Deuxième Guerre mondiale et qui est très spécifique. Mmh. Il faut avoir de la neige, de l'altitude, et on fait des stations de sport d'hiver. Et on attire.
Oui.
Et on crée localement.
Et quand on n'a pas la neige, on la fabrique.
Mais bien sûr. Mais après, il y a le soleil, la plage, etc. L'Espagne en a profité pendant des années, avec des effets pervers, bien sûr. Et, mais vous avez aussi la Grèce, et puis le sud de la Turquie, qui avait développé en 20 ans, même pas dans 20 ans, une côte absolument couverte d'hôtels pour accueillir les Allemands, les Britanniques, les Français, les Suédois, les Scandinaves, qui veulent aller au soleil l'hiver,
oui.
bien sûr.
Est-ce que certains pays sont fermés au tourisme ? Je ne le pense pas, si.
Si, 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 il y a des pays, bon, les grandes dictatures sont fermées au tourisme, c'est sûr. Et puis ensuite, vous avez une fermeture au tourisme qui tient, si vous voulez, aux règles internes du pays, à la démocratie. Le touriste, règle essentielle, la sécurité. À part une petite frange qui vient pour le danger, qui existe toujours, hein, mm-hmm. y compris localement. L'essentiel des touristes viennent là pour se faire plaisir, ils ne viennent pas là pour se mettre en danger officiellement. Donc un pays qui a des troubles. Exemple typique, puisque je parlais de la côte turque il y a quelques instants. Actuellement, il y a un effondrement de l'activité touristique en Turquie, qui est une activité importante pour ce pays. Tout simplement parce qu'il y a eu 3 attentats. L'attentat d'Istanbul, qui n'est pas très vieux, hein, puisqu'il date du mois de juin, a bloqué complètement plein les voyagistes qui n'arrivent plus à louer les séjours sur la côte turque. Ça existe. La France... Depuis les attentats, une série d'attentats, la France a vu sa fréquentation fortement chuter de la part des Anglais, des Américains, etc., qui viennent beaucoup moins nombreux. Parce qu'on parle de tourisme, mais on peut dire aussi que la France est parmi les grands touristes du monde. Et par moments, il a été le premier pays touristique au monde.
Justement, on va revenir à notre Volvestre, puisqu'on le disait. Pour le Volvestre, le tourisme, il existe, chacun peut le voir. À quel échelon on peut dire que le Volvestre est touristique ?
Alors,
est-ce que c'est au niveau patrimoine ? Est-ce que c'est au niveau gustatif ? On en parlait, je pense que oui, je ne sais pas.
Juste avant d'attaquer le Volvestre, parce que je pense que ça a du poids, ce que
oui,
je vais dire,
oui.
On a parlé beaucoup de ce tourisme, se faire plaisir, de ses avantages, mais... Les peuples, les régions, les décideurs, tous les gens concernés ont développé dans l'attractivité des éléments pour être encore plus attractifs, c'est-à-dire des équipements, par exemple, mais aussi toute une activité qui intéresse le tourisme, en particulier des activités plus ou moins culturelles. Donc vous avez partout des festivals. On n'imagine pas finalement la région marseillaise l'été sans Arles, n'est-ce pas, sans le festival d'Orange et surtout sans Avignon. Ça attire des centaines de milliers de personnes. Ce sont des activités culturelles. On n'imagine pas l'activité touristique du sud du Gers sans Marcillac.
Oui.
Il n'y aurait pas grand-chose. Marcillac attire des gens, des Français en quelque sorte, des gens de proximité, mais aussi attire la France entière et l'Europe entière. On croise de tout à Marcillac.
Oui.
Donc l'importance d'activités culturelles. Il y a les biens culturels. Bon, on va parler tout à l'heure du Volvestre, on peut parler de la cathédrale de Rieux, par exemple. Mais il y a ensuite tout ce qui tourne autour à travers des activités culturelles. Des musées importants, interactifs, d'actualité, etc. Et ensuite des festivals, théâtre, musique, que sais-je.
On en vient au Volvestre maintenant.
Mais les points forts du Volvestre, il y en a. C'est un certain nombre d'éléments d'architecture, d'histoire, ce pays de Volk. Hein, pour parler d'architecture, etc., il y a la cité de Rieux, qui est absolument remarquable. Il y a des bastides comme Montesquieu, qui sont absolument aussi remarquables. Il y a Carbolle, qui a toute une histoire avec un musée, avec un sculpteur qui est d'envergure internationale. Est-ce que c'est suffisant pour le tourisme? Voilà les vraies questions.
Oui.
Il y a un art de vivre extrêmement sympathique. L'été, on est couvert de fêtes, hein, Volvestre, mais dans beaucoup d'endroits aussi. Entre les fêtes, villages et manifestations diverses, les petits festivals de théâtre, de cinéma, que sais-je encore, pourquoi pas des marionnettes, pourquoi pas de l'équestre, du tir à l'arc, etc. Mais il les faut. Il les faut pour les populations sur place, parce que d'une certaine façon, c'est l'été, c'est la fête. Et finalement, on peut faire du tourisme en restant peut-être un peu sur place ou en profitant. Mais de l'autre côté, pour attirer les gens, c'est un peu compliqué, mais c'est surtout pour les fixer. Et les fixer, ça veut dire qu'ils dépensent sur place, qu'ils logent sur place.
Oui.
Et là, il y a des points qui ne sont pas qui sont des points faibles dans notre région.
Oui.
Je veux dire, vous avez une famille qui s'installe, mettons, dans la région, dans la vallée d'Alès. Elle a son guide, elle a consulté, puis elle va venir voir la cité de Rieux, elle va visiter la cathédrale, faire le tour de la mairie, etc., de la rue Saint-Sisy, et ses porches, ses façades remarquables. 2 heures, 3 heures et après. Peut-être va-t-elle profiter d'un restaurant bien placé, peut-être va-t-elle faire 2 courses, mais après. Après, elle va partir,
donc,
elle va rentrer loger.
Il faut de la structure pour pouvoir retenir le tourisme.
Il faut de la structure et puis il faut des avantages, une attractivité qui fixe. D'autre côté, dans cette activité touristique, c'est vrai que vous avez d'autres touristes qui viendront visiter la cité de Rieux et puis qui diront, tiens, mais les enfants, on va avoir une activité un peu ludique, on va faire un acrobranche peut-être. De côté de l'Ariège ou ailleurs. On va peut-être faire évidemment le village gaulois qui participe à cette attractivité, même si ce n'est pas une installation extraordinairement grande. Hein, ce n'est pas Disneyland, mais c'est très bien. Vous voyez tout ça. Il y a la Garonne, est-ce qu'il y a des activités, pourquoi pas du canoë sur Garonne. Mais pour l'instant, on peut dire que ce n'est pas énorme comme attractivité, c'est très ponctuel et c'est très partagé. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas loin de Toulouse. On pourrait essayer d'abord d'attirer les Toulousains à travers des week-ends. Et ensuite, parce que les centres de décision, et là c'est mon avis personnel, sont trop dispersés. Pour attirer des gens de loin, un festival doit être un festival d'envergure nationale. Point. Si vous faites un petit festival, c'est de l'entre-soi, quasiment. Hein? Il faut donc des autorités qui, à un moment donné, il faudra bien que notre Volvestre se dote d'une autorité capable de dire, eh bien, on fait un festival de cinéma là, et un gros festival de cinéma, on y met les moyens.
D'accord. Cinéma voilà. Ou autre, peu importe.
Ou autre, mais je le dis comme ça, parce qu'il y a cette force, il faut de la puissance pour attirer, pour créer un flux.
Oui.
Moi, je fais référence toujours à Marcillac. Vous savez, les débuts de Marcillac, c'était anodin. La force de l'équipe qui a fait ça, c'est de pouvoir attirer des vedettes internationales, de les fixer. Et à ce moment-là, évidemment, la montée s'est faite et l'attractivité s'est faite. Maintenant, Marcillac peut passer une vedette internationale de jazz, une très grande, et à côté, un jeune prometteur. Il y aura du monde.
Oui.
Parce que le festival a une image. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, il faut de quoi, des éléments qui font venir un touriste et qui le font rester.
D'accord.
Et la difficulté, c'est le rester. Notre Volvestre, ben, c'est une banlieue toulousaine, c'est proche des Pyrénées, il a des qualités, des avantages, un beau paysage, une agriculture un tantinet sauvegardée pour l'instant, il y a encore des haies, il y a quelques bois, voilà, gens sont sympathiques, quelques marchés, le tourisme, là-dedans, oui, il passera. Il passera d'ailleurs, le chemin de Compostelle, via la fameuse Via Garona, passe par Rieux, on verra passer des gens, oui, sur la Via Garona.
Oui, mais ils passeront.
Mais oui,
est-ce que le fait que Rieux, mais on parle de Rieux puisque nous sommes à Rieux et que nous sommes dans le Volvestre, est-ce que le fait de l'avoir promu, d'avoir été cité village remarquable, est-ce que ça c'est un atout pour le tourisme?
Bien sûr que c'est un atout. On fait parler de soi, on se trouve classé dans des sites dits remarquables au niveau français, c'est-à-dire des petites cités qui ont un intérêt touristique certain. Donc, c'est un atout, bien sûr.
Oui, mais après, il faut garder le touriste, en fait.
Ben, c'est un site en disant, Rieux est très, très agréable, il y a toute une histoire, il y a des choses à voir et à visiter. Le garder est un autre enjeu.
Oui.
Le garder est un autre enjeu. D'ailleurs, le signe de l'évolution de garder le tourisme, c'est aussi de regarder l'hébergement. Si le tourisme vient, si on veut le garder, ça veut dire qu'il dort sur place. Combien y a-t-il de chambres d'hôtes dans toute notre Volvestre? Peu. Combien y a-t-il de gîtes? Peu. Camping? Ah, il y a un camping à Rieux. Il y a un point fort à Rieux, ils ont un camping. Il y en a d'autres? De tête, comme ça, je suis incapable de répondre. Je pense qu'il y en a un ou deux de plus, si on prend le Volvestre au sens le plus large. Et oui, pour les fixer, par exemple, l'image, c'est effectivement qu'ils restent et qu'ils vivent sur place. Alors, peut-être... Mais bon, ça serait un débat pour, par rapport aux décideurs locaux. Peut-être qu'il y aurait des opérations à faire de ce côté-là, en profitant de quelque chose qui devient de plus en plus attractif pour les touristes. C'est Toulouse, un des paradoxes. C'est que Toulouse, qui est une ville très attractive, eh bien, pourquoi ne pas se mettre dans l'alignement de Toulouse, puisque nous le sommes par la voie ferrée et l'autoroute, dans l'alignement.
Oui.
Pour les garder.
En même temps, on pourrait garder le tourisme ici, ruralité du Volvestre,
voilà.
Mais on peut aussi le déplacer vers Toulouse pour faire des allers-retours.
Eh oui, bien sûr, bien entendu. Donc on a cette approche. On pourrait dire que notre Volvestre est entre deux portes du point de vue touristique.
Oui.
Il a des avantages pour en profiter certainement, ne serait-ce qu'à travers son lien avec Toulouse. Et d'autre côté, il faudrait peut-être des politiques très volontaristes, très déterminées sur des choix à faire localement pour effectivement définir un tourisme. Mais j'en profiterai quand même pour faire une remarque. Étant un habitant assez récent dans le Volvestre, je suis frappé par justement une méconnaissance du Volvestre de la part des gens qui y habitent. Je crois, et je pense que les écoles ont un rôle fondamental sur cette activité, je pense qu'on ne connaît pas notre Volvestre. La plupart des gens, nés ici ou pas, ou de là depuis longtemps, ne connaissent pas les villages dans les coteaux, ne connaissent pas, si vous êtes à Rieux, ils ne connaissent pas Martre, ou ils connaissent Malcazer, ou vice-versa. Et c'est extrêmement dommage. Comment, en quelque sorte, vendre notre activité touristique si nous-mêmes, nous n'en connaissons pas tous les avantages?
C'est
Je
vrai.
Pense qu'il faudrait passer par ça. L'exemple typique, c'est les petites activités culturelles dans lesquelles des bénévoles se donnent à fond. C'est souvent remarquable. Festival de théâtre, de ciné, etc., de musique. Je sors, j'y vais souvent, personnellement, j'aime beaucoup ça, c'est ma culture, mais c'est de l'entre-soi souvent. On se connaît tous. Et où sont les autres? Où sont nos concitoyens? Où est le village à côté? Où sont-ils? Moi, depuis ce constat, je me fais un point d'honneur, étant, j'habite Rieux, ben, c'est d'aller à Montesquieu, à Cazères, à Carbone et ailleurs, et à Pouchard, mais dire justement, il faut que je sorte de cet entre-soi.
Mm-hmm. Ma dernière question. Occitanie est le nom de notre région, en principe. C'est un nom qui est très contesté, on ne peut pas le nier, c'est très contesté, les gens ne sont vraiment pas contents que ce soit Occitanie qui soit arrivée en tête. Mais par contre, quand il s'agit de faire de l'argent sur ce nom-là, tout le monde est d'accord. Comment vous pouvez expliquer la chose ?
Oh là, très simple, c'est en prenant le point d'arrivée de ta question. S'il y a moyen de faire du pognon, là, on parle plus moral, c'est ça. Ceux qui voient une opportunité pour faire un peu de chiffre d'affaires, bien sûr, ils s'en emparent sans difficulté. Ensuite, sur Occitanie, c'est le nom de la région qui arrive, qui est là. Ça a été mis aux voix pendant plus d'un mois. Il y a eu des campagnes pour appeler à voter, etc. Ça me paraît tout à fait démocratique. C'est le nom qui en est sorti. Il aurait pu être un autre, hein. Qui en est sorti, ben voilà, moi je trouve que c'est démocratique. Alors une fois qu'on a dit que c'est ce nom-là, alors à ce moment-là, le rideau habituel des aigris, des mécontents, s'est mis en route et on n'entend que comme d'habitude. Mmh. Mais pourquoi n'ont-ils pas participé ? Pourquoi ils n'ont pas voté ? Parce que finalement, moi je vois autour de moi et j'ai appelé à voter. C'était quand même une opération d'une simplicité extraordinaire. Bon non, pourquoi ? Mais ça n'a pas de sens et tout ça. Ben, ça n'a pas de sens, voilà. Ben, ça a du sens, ça a été notre nom. Alors, moi, pourquoi ce nom ne me gêne pas plus que ça ? Il fait référence à nos origines latines, voilà. Il fait référence à notre langage premier, à savoir l'occitan. Et il fait référence à toute une partie de l'histoire. C'est un nom qui sonne comme le soleil, qui sonne plutôt gai, qui sonne justement vacances, détente. Donc oui. Occitanie me va bien.
Et est-ce qu'il est touristique ce nom ?
Je pense qu'il le deviendra.
D'accord.
Il le deviendra. Parce que quand on... Alors, je vais mettre une petite réserve parce que justement, je n'ai pas de compétences sur... et je n'ai rien lu, je n'ai rien regardé sur comment le mot Occitanie est perçu en allemand, en anglais, en scandinave, en japonais, en je ne sais pas. Mm-hmm. Parce qu'il est sûr que dans le monde d'aujourd'hui, dans cette mondialisation, il aurait mieux valu un nom en deux syllabes, je le dis et je le redis, en deux syllabes, et qui ait un sens très neutre ou très joyeux ou très de bonheur en anglais, pour que le monde entier le dise comme ça, quoi. Mais, Provence, Côte d'Azur, Alpes, hein, qui se souvient, c'est la région PACA pour tout le monde. Est-ce que PACA, c'est un nom qui est joli, hein ? Ben non, mais pourtant ça passe bien, et c'est une zone hyper touristique. Bon, c'est un tourisme un peu particulier. Donc l'Occitanie ne me gêne pas. Alors, fils de paysan, je me l'approprie sans difficulté aussi, je dois dire. Je suis pas originaire d'un pays de l'Est comme ça, où ça peut poser peut-être un problème. Mais bon, c'est comme ça. On a voté, on l'a.
Merci beaucoup.
Merci. Profitez du mois d'août.